Merci.
C'est juste qu'il y a des gens.
Voilà. Merci à Martine et merci à tous ce soir d'avoir été si nombreux à vous mobiliser. Merci beaucoup. C'est pour cette raison qu'on est là pour vous. Ainsi s'achève votre libre antenne donc, de ce soir. Je vous retrouve demain avec toujours le même plaisir à 22h15 à peu près. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et retrouvez dès maintenant Marlène Duret dans vos programmes de la nuit.
Merci Valérie et on remercie toutes les personnes qui ont témoigné ce soir. C'est pas toujours évident d'ouvrir son cœur, de s'épancher comme ça au vu et au su de tous, de trouver les mots en tout cas, et on vous en remercie. Vous écoutez Europe 1, il est 1h. Et il y a de la vie par ici, la nuit. Place à nos programmes qui débutent comme toujours en compagnie de Christophe Ondelat. Vous le savez, les vendredis et samedis entre 14h et 15h, il nous fait entrer dans la tête des criminels. Aujourd'hui, un ancien coach sportif qui se présente comme un expert en séduction, mais au penchant, disons, misogyne et phallocrate.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 2020, en région parisienne, Michael Filetas, 38 ans, est un coach en séduction. Il a acquis une petite notoriété sur Internet grâce à sa chaîne YouTube sur laquelle il prodigue ses conseils. Mais aussi, et ça c'est plus inquiétant, ses thèses misogynes et antiféministes. En janvier 2020, il tue son ex-petite amie Mélanie Guillaume de plus de 80 coups de couteau. Et il laisse pour mort son nouveau copain et sa sœur. Il ne supportait pas que Mélanie ait refait sa vie. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Michael Filetas.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1.
Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2020, à Écquevilly, dans les Yvelines, près de Paris, Michael Filetas mène une expédition vengeresse contre son ex-petite amie, Mélanie Guillaume, qui vient de le quitter. En pleine nuit, il débarque chez elle, il coupe le courant, il ouvre la porte d'entrée au pied de biche. Et au premier étage, il tombe d'abord sur Mallory, la sœur de Mélanie, allongée sur le canapé. Si tu cries, t'es morte. Je te tue, t'entends ? Puis il menotte Mallory dans le dos, lui baisse son pantalon et sa culotte. Et à ce moment-là, Mallory hurle. Mélanie, va-t'en ! Va-t'en ! Il y a Michael ! Michael Filetas la frappe alors de plusieurs coups de couteau. Il la laisse pour morte et il grimpe au deuxième étage. Il entre dans la chambre de son ex. Il lui plante plusieurs coups de couteau. Et puis s'en prend à son nouveau compagnon, Brian, qui tombe inconscient. À ce moment-là, Mélanie Guillaume prend la fuite vers le garage, il la rattrape et la frappe de plus de 80 coups de couteau. Mélanie Guillaume succombe à ses blessures. Sa sœur et son petit ami sont sauvés in extremis par les secours.
Bien, monsieur. Vous êtes très affaibli. Néanmoins, nous nous permettons de vous interroger sur votre lit d'hôpital. Nous serons brefs. Quels sont vos souvenirs de ce qui s'est passé ? J'ai tenté de le désarmer, mais je ne suis pas arrivé. Il m'a frappé au couteau. Alors j'ai fait le mort.
Chacun va recevoir quand même 30 coups de couteau, autant Mélanie que Brian. Mélanie en recevra plus après, puisqu'elle sera poursuivie et achevée dans le garage de la maison, mais ce sont des coups qui sont redoublés, c'est-à-dire qu'il y a une séquence qui est d'une fréquence et d'un rythme qu'on a du mal à imaginer.
David Sena, Avocat général.
30 coups de couteau, si on essaie de se figurer le temps que ça dure, planter, enlever, etc., c'est quand même une scène qui prend un certain temps et qui témoigne d'un acharnement absolument total. Et Brian va avoir l'extraordinaire présence d'esprit, après s'être laissé tomber du lit vers la fenêtre, et bien de faire semblant d'être mort, pour échapper à la vraie mort. Il s'est dit, dans le fond, en simulant la perte totale de conscience, il va croire que je suis mort et il cessera de me frapper. Et ce geste va sans doute le sauver, puisque Fidetas va essayer de voir s'il est ou non vivant en lui donnant un coup de pied par terre pour voir s'il bougeait encore, s'il réagissait encore. Brian ne va pas réagir, il va donc simuler la perte de conscience qui était sûrement assez proche par ailleurs. Et à partir de là, il va cesser de s'intéresser à lui, si j'ose dire. Il le laisse pour mort, c'est pas un geste de pitié, c'est simplement la certitude qu'il est mort, le boulot a été fait, pas besoin d'y revenir, c'est pas du tout un geste de commisération.
Après que vous ayez fait le mort, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? J'ai pas tout vu. Mais j'ai compris que Mélanie s'est enfuie et lui, il l'a poursuivi. Mais c'est tout. J'ai rien vu.
Les pompiers, en première intention, la police secours, le SAMU, donc vont trouver une jeune femme dont les viscères sont malheureusement apparentes lorsqu'on retrouvera son corps. C'est-à-dire qu'il lui aura ouvert le ventre au point que les organes qui sont contenus dans l'abdomen en soient sortis. Ça témoigne quand même de l'extraordinaire sauvagerie de cet acte. On est dans un degré d'horreur qui est tout à fait singulier par rapport au meurtre ou à l'homicide classique, courant. C'est quelqu'un qui surgit quasiment donc du néant, qui surprend ses victimes qui sont assoupies, qui sont ensommeillées, et qui frappe en toute première intention. Donc c'est la vision la plus froide du geste criminel qui soit. C'est un dossier unique. Même dans le cadre des crimes les plus sanglants, des meurtres les plus sanglants, des meurtres aggravés les plus sanglants, et il en est, et notamment en matière conjugale, dans l'ordre des féminicides, et c'en est un, on ne voit que rarement, sinon jamais, un tel degré de préparation en amont, d'anticipation, qui est très professionnelle, et surtout d'acharnement. On sent qu'il y a là une force supérieure qui a armé ce bras. Michael Fidetas, je me le représente au-delà de ce que l'on fait classiquement à partir d'un dossier papier.
David Senna, avocat général.
Je vais voir sur Internet et sur YouTube parce que on peut y voir Michael Fidetas qui s'exprime dans des vidéos qui sont en ligne sur sa chaîne YouTube, dans laquelle donc il dispense à la fois des cours de séduction, des cours de relations entre les hommes et les femmes, et où il fait profession de son idéologie.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Monsieur Fidetas Michael, lui-même. Alors, petite vidéo pour te donner mon actualité. Première mini-conférence, donc on prend une journée et je t'apprends ma méthode. La séduction absolue, donc le matin sur la personnalité, sur l'attraction, et l'après-midi sur la séduction. La séduction et la reséduction. Donc, après, voilà, c'est bien d'avoir les deux pour pouvoir les mixer. T'as besoin des deux de toute manière. C'est un peu comme un moteur hybride.
J'avais déjà regardé un peu les podcasts dont on m'avait averti de l'existence. Je pressens qu'il est d'accès compliqué, qu'il est exigeant, que factuellement, il faut que je sois absolument dans les formes de la convocation.
Docteur Isabelle Théier, expert psychiatre.
Je vais en maison de détention. Je n'annonce pas mon arrivée, sauf à la maison d'arrêt elle-même, à charge à la maison d'arrêt de prévenir le mis en cause. Sauf que là, je dis expressément dans mon message à la maison d'arrêt, je vous prie de bien vouloir informer Michael Filetas. C'est important de mon arrivée, tel jour, telle date.
Filetas, parloir, viens. Je t'en personne. C'est quoi ce bordel? Expertise psy, mon vieux.
Alors, d'abord, je l'attends longuement. Je le vois arriver. Il s'arrête pile. Il me semble qu'il a quelques documents, j'en suis même plus sûre. Il s'arrête pile devant nous. Je me présente. Et là, je le vois tourner les talons. Il va s'en aller. Et je le rattrape. Je ne sais pas comment. Je crois que j'ai passé une demi-heure ou trois quarts d'heure à essayer de le convaincre de rester. En faisant venir la surveillante pour attester du fait que je lui avais bien envoyé nommément une convocation. Et puis ensuite, je le laisse parler longuement. Son discours prend tout de suite les allures d'une sorte de réquisition contre la manière dont on s'est occupé de lui, qu'on ne veut pas entendre sa vérité, ce qui est tout à fait paradoxal, puisqu'il y a par exemple une audience avec le juge d'instruction où il répondra « je garde le silence » au moins une quarantaine de fois. Donc je tâche d'avoir avec lui une discussion dialectique, en lui expliquant « écoutez, je ne comprends pas très bien, à la fois vous voulez vous faire entendre et en même temps, quand on vous en donne la possibilité, vous ne voulez pas parler ». Et surtout en le laissant déployer tout un argumentaire pour faire entendre que personne ne veut le laisser dire la vérité concernant cette affaire. Et je crois que je vais gagner la mise, voyant la difficulté à avoir accès à lui, en lui disant « écoutez, je m'engage à vous dire les conclusions de mon expertise à l'issue de l'entretien que j'aurai avec lui. » Effectivement, je lui dirai exactement ce que j'en pense. Immédiatement, je constate qu'il est à la fois ombrageux, méfiant, obstiné, fier, farouche, peu flexible, déterminé. Vraiment une très très grande méfiance. Méfiance de l'autre, avec en plus une sorte de leitmotiv, celui qu'il détiendrait la vérité, lui. Donc quelqu'un d'extrêmement rigide, assuré de son bon droit, et surtout qui, d'une certaine manière, tout de suite d'entrée de jeu, renverse le champ accusatoire. Ce n'est plus lui qui est le coupable d'une faute, c'est lui qui devient la victime d'un système, puisqu'il est persécuté par les avocats, qu'il récuse au fur et à mesure, puisqu'il est persécuté par le juge d'instruction, puisqu'il est persécuté par les experts qui l'ont vu avant que je ne le rencontre, il est persécuté par tout le monde. Raison pour laquelle je vais être extrêmement attentive, marchant sur des œufs tout au long de l'interrogatoire pour ne surtout pas heurter sa susceptibilité.
Code B71, expertise psychologique de Marie de Jouvencet. Michael Filetas est né le 16 décembre 1981 à Paris. Il a obtenu un BEP comptabilité et abandonné sa scolarité en bac pro. En prison, Michael Filetas a obtenu un DAEU pour poursuivre des études supérieures.
Il se prépare à faire des études de psycho, tout à fait déterminé à devenir doctorant. Il en a les moyens, c'est un type intelligent. Et donc, il a déjà beaucoup lu. Et donc, il assoit ses convictions sur un discours pseudo-scientifique en disant « c'est pas de ma faute, c'est mon cerveau reptilien qui est l'auteur des actes dont on m'accuse ». Et il a un discours tout à fait savant, mais qui est complètement pseudologique ou paralogique. Donc, il va parler de proprioception. Ce sont ces termes, hein, de sens de la verticalité, de motricité, de phénomène naturel, de réalité et d'impartialité scientifique, de biais cognitif, de physiologie oculaire, de cortex visuel et de loi de la physique et de l'anatomie, de proxémique et de développement sur les cinq fonctions du cerveau humain et en particulier sur le cerveau reptilien pour justifier son absence de libre arbitre. Il invoque le cerveau reptilien qui l'aurait fait agir pour estimer qu'effectivement il doit être sinon aboli, du moins altéré, dans la conscience qu'il avait de ses actes, puisque c'est pas lui qui a agi, c'est son cerveau reptilien.
Pendant l'instruction, Michael Filetas renvoie un par un tous les avocats commis d'office qu'on lui propose. Seul le dernier, maître Guillaume Gombard, l'accompagne jusqu'au procès.
Alors initialement, non, je connais pas du tout le dossier. Je me retrouve dans une configuration un petit peu particulière parce que Michael Filetas a pris un peu ses avocats en grippe C'est-à-dire qu'il a eu le sentiment de ne pas avoir accès à la procédure.
Maître Guillaume Gombard, avocat de Michael Filetas.
Moi, je suis commis d'office un petit peu dernière minute, puisque l'avocat est obligatoire à l'occasion d'un procès d'assises. Et c'est dans ce contexte que je vais le voir véritablement tardivement, lui expliquant que je suis pas destiné forcément à intervenir beaucoup, si c'est son souhait, mais que je vais être à ses côtés pour essayer de l'aider au maximum, même si la tâche est peu aisée. J'ai toujours été transparent avec lui, c'est-à-dire que le dossier étant tellement grave qu'il faut être humble et que le rôle de l'avocat, il est nécessairement limité.
Faites entrer l'accusé.
Je m'attends à être accusé par M. Filetas. La réalité, c'est que finalement, et un peu contre toute attente, il ne me récusera pas, il fera le choix de garder le silence quasiment la totalité de l'audience. On a eu des entretiens. À l'occasion de ces entretiens, malheureusement, je trouve qu'il était bien meilleur que ses silences, parce que on peut pas dire qu'il soit pas atteint par les faits qu'il a commis. Il a quand même tué sa compagne, qui était, je pense, l'être le plus précieux. Ça paraît... bizarre de dire ça, mais il a toujours du mal à comprendre finalement son acte.
Monsieur Filetas, je vous le dis, il serait peut-être préférable pour votre sort que vous vous exprimiez devant cette cour. Cessez ce mutisme. Cela ne vous sert pas, vous savez. Et elle n'est pas la cour à vous juger.
Je ne l'ai pas perçu du tout comme une défiance. Je l'ai vu plutôt comme du respect vis-à-vis des parties civiles. C'est-à-dire qu'il est compliqué de dire pardon avec la plus grande sincérité possible. Parfois, il est préférable de se taire plutôt que d'apporter des explications qui sont inaudibles pour les victimes. Ce que je vais dire est... assez choquant quand on voit ce qui s'est passé dans cette maison. Et je le dis avec beaucoup de respect pour les victimes qui ont en plus fait preuve de dignité à l'occasion de l'audience. Mais il nous a parlé souvent, et c'est ce qui a pu faire rire parfois, ce qui est choquant là aussi, il fait appel à son cerveau reptilien, estimant que lui n'a fait que se défendre, que les coups qu'il a portés étaient essentiellement des coups de défense et non pas des coups d'attaque. Dire cela, c'est quasiment un gros mot pour les parties civiles quand on voit qu'il intervient avec un couteau pour tuer des ours à 3h du matin dans un pavillon en faisant sauter les plombs volontairement. On ne peut pas aller sur cet axe-là et pourtant je pense que c'est une réalité du dossier qu'il a été véritablement dépassé par sa propre personnalité à partir du moment où il a franchi les murs de ce pavillon.
La cour!
Il a pu tout de même présenter des excuses à certains moments, c'est resté relativement lacunaire, mais toujours pareil, avec la conscience de savoir que des excuses vis-à-vis de cette famille qui ne l'aime pas ne servaient à rien. Et ce que décrit l'expert psychiatre, c'est-à-dire que finalement il y a un espèce de sursaut de sa personnalité qui se renferme à nouveau dans une forme d'injustice. Et je pense que trouver un ennemi dans l'institution judiciaire est parfois plus facile que d'assumer la réalité des actes qu'il a commis.
De son procès, Michael Filetas est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec donc une période de sûreté automatique de 18 ans. Il fait appel, et cette fois, il a décidé de s'exprimer.
C'est un homme qui a un certain charisme, c'est un homme qui est grand, sportif, séducteur incontestablement et qui a un talent réel ou supposé de communication. Il a fait de la communication une profession.
David Sena, avocat général.
Il a développé je dirais, une compétence qui en fait un accusé extrêmement différent de la plupart des accusés qui, en général, parlent peu, parlent mal, et ça peut se comprendre. Donc il est extrêmement loquace, il est extrêmement prolixe, il parle, il se présente comme un intellectuel, ou en tout cas il se revendique d'un mouvement intellectuel. Donc c'est un homme profondément différent de l'accusé moyen, du meurtrier moyen, parce qu'encore une fois, il adosse son geste à une idéologie, à des idées, à des textes.
Dans ses vidéos de code chance séduction, Michael Filetas ne prodiguait pas que de bons conseils de drague. Il diffusait surtout des thèses misogynes et anti-féministes. Pour lui, la masculinité est en danger. Les femmes dominent trop les hommes. C'est un courant de pensée qui pullule sur la toile et qu'on appelle le masculinisme. Il nous vient des États-Unis avec le mouvement « Men going their own way ». Les hommes suivant leur propre foi.
Men going on their own way, c'est un mouvement, une communauté qui s'est développée à partir des États-Unis et qui aujourd'hui donc est très présente sur les réseaux sociaux et sur Internet, où finalement chacun peut s'ériger en gourou, influenceur, et exercer un rapport d'autorité par l'effet même de la communication. Michael Filetas n'a pas été élu, désigné par quiconque. Il s'est emparé de cette idéologie qui lui a convenu, qui lui convient. Il a créé sa chaîne YouTube, il a créé son activité de conseil en séduction, en coaching, pour lequel il était rémunéré. Et à partir de là, son autorité est née finalement de l'audience qu'il s'est créée.
C'est ouf, c'est ouf. Donc, elles sont autour de nous. Il n'y a qu'à regarder aussi des fois, juste vos parents. Comment votre mère, elle parle à votre père. Vous regardez comment vos cousines sont avec leurs petits copains. C'est dans la société. C'est que les meufs, elles aiment bien afficher leurs mecs. Elles ont besoin de ça pour avoir l'attention. Et pour aussi, quelque part, faire briller leur putain d'auréole.
Michael Filetas avait déjà été violent avec une femme. 5 ans plus tôt, il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur sa compagne de l'époque. Évidemment, les psychologues, les psychiatres cherchent à comprendre la genèse de sa haine des femmes. Et comme souvent, les réponses sont à chercher du côté de son enfance, et plus précisément des secrets de la famille Filetas.
J'ai été d'entrée très frappée par la jalousie de Monsieur Filetas à l'égard de l'ex. Il a tout le temps ce mot à la bouche, l'ex. L'ex de ma compagne, l'ex de mon ami.
Docteur Isabelle Théier, expert psychiatre.
Et cette jalousie se porte toujours sur un tiers. Il va expliquer par exemple qu'il était extrêmement jaloux du troisième de la fratrie, Ludovic, dont il assure qu'il était le préféré de sa mère, à tel point que quand il partait en colonie de vacances, il avait peut-être 20 euros, alors que son frère en avait 6 fois plus. J'ai été très attentive dans le visionnage des podcasts. Or, cette question de l'ex, à mon avis, dépasse très largement Ludovic, puisqu'il parlera très souvent du fantôme dans le placard. Alors, on parle souvent du cadavre dans le placard, mais il parle tout le temps d'un fantôme dans le placard. Qui est ce fantôme dans le placard, sachant qu'évidemment, pour la psy que je suis, un placard, c'est quand même extrêmement matriciel. Ça renvoie à la matrice, ça peut tout aussi bien renvoyer à la matrice d'une femme.
Code B135, expertise psychiatrique du docteur Isabelle Théier. Chez Monsieur Filetas, il y a au cœur de son histoire intime, restée comme gelée, la question de la mort à sa naissance d'un frère aîné, David. Michael Filetas dira qu'il a découvert son existence sur le livret de famille par un trait qui le barre sans que jamais ses parents ne lui en aient parlé. Les aspects mortifères du secret de famille ont pu infiltrer la construction de la personnalité à l'adolescence.
Il peut exister ce qu'on appelle un lien hostile dépendant de la mère à l'enfant, un lien teinté d'ambivalence. D'abord parce que l'enfant ne remplit pas tout à fait les conditions qui font... Il n'est pas, à proprement parler, l'enfant qui est mort. Il essaie d'être ce qu'il est, sauf qu'il est effectivement assigné à la place du mort. Et il est sans cesse l'objet d'une comparaison invisible entre l'enfant qui est mort et lui. Il doit rivaliser en fait avec un mort, ce qui n'est pas tout à fait facile, dans l'esprit de la mère en tout cas. C'est une de mes hypothèses psychodynamiques dans cette histoire. C'est que, outre la configuration, attention, il y a aussi la configuration parentale du couple formé par le père et la mère, qui éclaire aussi la haine absolument meurtrière de Michael Filetas à l'égard des femmes.
Pour Michael Filetas, ses parents d'origine antillaise formaient un couple déséquilibré. Sa mère portait la culotte, elle tenait le foyer et elle dominait un père effacé et alcoolique.
La seule chose, c'est qu'il semble que cette configuration ait pris une ampleur excessive avec une mère qu'il décrit comme arbitraire, extrêmement arbitraire, autoritaire, voire même despotique, et un père dont il tente de minimiser l'alcoolisme, qui est pourtant repéré par l'une de ses amies comme étant au cœur de la séparation entre les deux parents. Donc un père alcoolique dont il va, selon moi, beaucoup parler dans ses podcasts, en s'adressant non pas à lui, mais à un certain tonton. Un tonton qui se ferait couper les coronets par sa femme. Tout au long de l'analyse que je ferai de Michael Filetas, je verrai bien qu'il y a une fantasmatique éminemment meurtrière à l'égard des femmes, et à travers elle, à l'égard avant tout de sa mère. Il va de soi que ça n'est pas seulement la question de l'enfant de remplacement, qu'il n'y a pas une explication univoque, mais que cet élément et beaucoup d'autres fondent la personnalité de Michael Filetas.
Monsieur Filetas, il s'agit donc aujourd'hui de votre procès d'appel pour l'assassinat de Mélanie Guillaume et deux tentatives d'assassinat commis sur sa sœur et son petit ami. Qu'avez-vous à dire sur les faits et quelle est votre position ? J'ai rien prémédité. Je voulais pas tuer Mélanie. Si je suis venu chez elle avec le couteau, c'est parce que je voulais me suicider. J'étais désespéré qu'elle ait un autre gars.
Il se replace au cœur de ce procès, non pas comme auteur, mais comme victime.
David Senna, avocat général.
Il est figé dans le déni face à l'évidence. On a dans ce dossier des éléments qu'on a rarement. On n'a pas l'ombre d'un doute. On est face à quelqu'un qui va mettre en scène, organiser rationnellement, scientifiquement, sa vengeance, c'est-à-dire un assassinat. Il va se rendre à deux reprises dans un magasin pour se procurer deux pieds de biche pour accéder par effraction dans la maison. Quelqu'un qui va se rendre dans une armurerie, se procurer plusieurs paires de menottes, cagoule, des gants. Il va se procurer un premier couteau, qui est un couteau déjà conséquent, qui permet évidemment de tuer. Et puis, il va se rendre une deuxième fois dans cette armurerie. Et là, il va demander de façon tout à fait claire un couteau d'armement militaire, hein, qu'utilisent les Marines américains depuis 1942, donc quelque chose qui est directement conçu pour tuer l'ennemi. Et donc, il est passé à l'acte à partir d'un hôtel. Il se rend à pied une première fois à la maison. Il se rend compte que la victime n'est pas là parce que sa voiture n'est pas là. Il rebrousse chemin. Il revient quelques heures après. Et là, il est certain que sa victime est là. Il entre, il fracture les portes. Il monte à l'étage. Il commence par tenter de tuer le premier témoin gênant, le premier obstacle qui est Mallory, qui là aussi va laisser pour morte. 30 coups de ce couteau. Sur cette jeune femme, elle aurait dû mourir. Et après, il monte à l'étage et il tente de tuer Brian, il tente de tuer Mélanie. Il n'y arrive pas à ce stade, il la rejoint, il la tue. Donc c'est vraiment un geste qui dépasse de très loin la gravité du féminicide que je qualifie là encore une fois de classique, mais il faut bien me comprendre. En ce sens que ça n'a strictement rien d'un réflexe, d'un geste isolé ou spontané, qui arrive malheureusement et trop souvent. Là, on est dans la préparation rigoureuse, réfléchie, froide de cet acte.
Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Je crois que c'est la personne qui m'a inspiré le plus d'inquiétude par rapport à une dangerosité durable, froide, qui est à la fois psychologique, criminologique, idéologique. C'est un individu qui est totalement radicalisé. J'ai employé l'expression de radicalisation qu'on emploie à propos de la radicalisation islamiste, mais c'est exactement le même phénomène. Et tant que cet homme ne sera pas déradicalisé, il sera dangereux, aussi bien qu'un individu radicalisé dans le domaine islamiste est dangereux tant qu'il n'est pas déradicalisé. Il fait partie des dossiers que l'on porte avec soi. Je ne sais pas où on le porte exactement. Est-ce dans le dos, est-ce dans sa tête, dans un coin de son cerveau, mais ça fait partie des dossiers que l'on porte avec soi et qu'on portera longtemps, incontestablement.
En appel, Michael Filetas est cope à nouveau de la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté augmentée qui passe de 18 à 22 ans. Ainsi se termine ce numéro dont de la traconte version code B. Enquête aujourd'hui de Guillaume Maury. Réalisation Guillaume Vasseau.
Retrouvez On de la traconte code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast. De la traconte Code B revient aujourd'hui avec une nouvelle personnalité criminelle à décrypter. Il s'appelle Lilian Legrand et en 2012, il est interpellé pour le meurtre d'une étudiante. Il faut dire que pendant 17 ans, il a échappé à la justice. Il a mené sa vie bien tranquille, tout simplement parce qu'il était adjudant de gendarmerie. Donc une ancienne affaire classée dans laquelle on se replongera ce samedi de 14h à 15h sur Europe 1. La nuit se poursuit dans un instant avec Pascal Pro et vous, l'émission de ce vendredi pour vous qui n'étiez peut-être pas au rendez-vous entre 11h et 13h. On est notamment revenu sur l'affaire Kenji Girac. Et puis on a aussi célébré un mariage, deux sœurs qui ont décidé de se marier en même temps, au même endroit, dans les Côtes d'Armor. Voilà. En attendant de retrouver Pascal Pro, musique avec un breton, justement, le chanteur Hervé et son nouveau morceau, Sémaphore.
Le footing asthmatique. À courir la carrière sur un fil on traverse alors sur un vent de travers parce qu'on reste ce que nous sommes. Soigner les rhumatismes à handicap et belle les sorties de piste, les sortilèges, ce qui nous porte, ce qui nous pèse parce qu'on reste. Réveillés par les tics, on fait des gosses, on fait des clics. On s'émeut face à la mort, on se remet mort, on s'ignore. Parce qu'on reste ce que nous sommes. Prends-moi la main, serre-la fort. C'est ma faute, c'est ma faute. Je me perds dans la psychose hexagonale. Prends-moi la main, serre-la fort. C'est ma faute, c'est ma faute. J'suis perdu là, j'suis plus bien, j'ai mal. Pour qu'on reste ce que nous sommes. Funambule, ça bascule. On avance sans recul. La matrice qui materne, alors c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort. Je reste ce que nous sommes. On se détend, on se déclic. On refait des gosses, on refait des clics. On s'émeut plus face aux morts. On s'ignore, là si s'ignore. Parce qu'on reste ce que nous sommes. C'est ma faute, c'est ma faute. Je me perds dans la psychose hexagonale. Prends-moi la main, serre-la fort. C'est ma faute.
Hervé, de retour avec un troisième album dont la sortie est prévue pour le 31 mai. Album enregistré en Angleterre, il a loué une maison, il a invité ses copains de la tournée et voilà, ça donne ce premier extrait, Sémaphore, coup de cœur d'Europe 1. Sachez qu'il viendra nous chanter ce titre en direct dans l'émission de Thomas Hill, Culture Média, mardi. Voilà, Culture Média que vous retrouvez évidemment de 9h30 à 11h sur Europe 1. Bonne nuit avec nous, redécouvrez nos programmes jusqu'à 6h. L'heure est venue de retrouver Pascal Praud et vous en nouvelle diffusion.
Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous.
Thanks God, it's Friday.
Yes, it is.
Comme on dit dans les bureaux new-yorkais.
Au New York Times.
Évidemment. Je salue Géraldine Hamon qui était de retour cette semaine après quelques jours de vacances. Je salue également son compagnon qui est là avec nous.
Ah, on ne devait pas divulguer nos vies privées.
Monsieur DJ Fab. Qui est habillé comme Raël, tout de blanc vêtu aujourd'hui.
Tout de blanc vêtu me suffira.
Tout de blanc vêtu, je ne sais pas pourquoi. Non mais c'est vrai, vous êtes habillé comme un... Raël,
c'est notre gourou. Ben oui, j'incarne la pureté même.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je salue évidemment l'ami Laurent Tessier.
Bonjour
qui est à
tous.
La rédaction en chef de l'émission. Bonjour cher Laurent, tout en gris. Et puis notre ami Olivier Guédec qui prépare son week-end, c'est-à-dire rien.
Non mais alors là, vous savez quoi ? C'est bien fait pour vous.
Pourquoi ?
Mauvaise langue. Je vais à Dublin ce week-end.
Vous allez à Dublin ?
Je vais à Dublin ce week-end.
Mais on n'a pas eu un auditeur qui partait pour Dublin semaine ?
Si c'est le hasard, c'est fou ça. Oui.
Bah, sinon, vous allez avec eux, c'est un de vos potes.
Non, il fait appeler ses potes. C'est pas vrai.
Mais c'est vrai.
Bah oui.
Et pourquoi il nous avait appelé cet auditeur qui partait pour Dublin ?
Bah parce que nos billets ont été annulés au début. On a dû en reprendre d'autres, etc. On part tout à l'heure.
Oui, voilà.
Quel scandale, franchement.
Il m'a eu.
Mais bien sûr, mais moi je savais pas ça.
Bah, j'ai dit à personne, oui.
Bah, vous, bah, si vous venez de le dire à des millions de gens. Êtes-vous gêné de connaître autant de détails de la vie privée de Kenji Girac ? Je disais ce matin, effectivement, avec Dimitri Pavlenko, que le procureur de Mont-de-Marsan, il peut faire une petite pige à Voici, parce qu'il a donné plein d'informations qui peuvent être étonnantes, quand même, sur la vie privée de Kenji Girac. Le procureur de la République, il a tout détaillé hier, le chanteur blessé par balle lundi à Biscarrosse voulait simuler un suicide, alors pourquoi pas de dire ça, pour faire peur à sa compagne, mais il a dit également qu'il était alcoolique, qu'il était, qu'il prenait de la drogue, donc évidemment ça peut étonner parce qu'il n'est même pas poursuivi et l'affaire est classée, c'est pour ça que ça peut étonner. Donc je vous propose d'écouter Olivier Janson, c'est donc le procureur de la République de Mont-de-Marsan hier.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il l'a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur dans cette arme de poing comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus. Il dit ceci, « En aucun cas, c'est ma femme qui m'a tiré dessus. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur, j'étais tout seul, ma famille n'était pas là, il faut comprendre son père, sa mère, ses sœurs. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, j'ai eu peur. » Il précise qu'il n'avait jusqu'alors pas donné cette version à sa famille et qu'il leur avait dit que le coup était parti tout seul.
Bon, écoutez, on peut écouter une deuxième fois M. Janson sur les tensions qui existaient dans le couple.
Des tensions sont apparues également, dit-elle, du fait d'une addiction naissante de la part de Kenji Girac, addiction à l'alcool. Sujet qui a généré de grandes tensions dans le couple. Elle le présente comme étant à la base un simple fêtard, ce que pouvait parfaitement comprendre et ce qui avait pu par ailleurs lui plaire. Et elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer en ce qui la concernait. Elle précise néanmoins, je souhaite le faire pour éviter toute ambiguïté, que si cette situation générait des disputes, Kenji n'avait jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de sa fille, mais qu'il pouvait casser des objets lorsqu'il était dans cet état. Elle a été interrogée sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine.
Alors, parfois, on reproche à des procureurs de ne pas communiquer. Et je pense par exemple au procureur de Crépol. On aurait aimé qu'il prenne la parole. Il ne s'est exprimé que par communiqué. Et là, effectivement, comme l'affaire est classée, on peut être surpris qu'il donne autant de détails, parce qu'on est quand même dans la vie privée de M. Girac. Alors, on est avec José. José qui nous appelle régulièrement, que vous connaissez, qui appartient à cette communauté gitane. Bonjour José, et vous vouliez sans doute intervenir sur ce sujet.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Ouais, bonjour à vous.
J'ai écouté ça. Mais ce procureur là, il a voulu avoir son heure de gloire, être dans la lumière, c'est la suffisance à l'état pur. Ce procureur, Monsieur Pro, c'est un mec intelligent, donc il connaît le pouvoir des mots et qu'ils peuvent être destructeurs. Donc j'en déduis que ce qu'il a dit sur la vie privée intime de Kenji Girac, il l'a dit avec un cynisme absolu, sans scrupule, sans état d'âme, sans la préoccupation qu'il pouvait anéantir une famille. Pour moi, c'est une forme de vengeance. Il n'aime pas le monde des gitans et des voyageurs. Il n'aime pas ceux qui ont un code d'honneur, ceux qui ont le sens de la parole donnée, ceux qui balancent jamais. Ça le gêne. Vous comprenez ? C'est une vengeance.
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne interprétation. Mais restez avec nous, José, parce qu'on va marquer une pause. Et puis, on aime bien annoncer les sujets dont on va parler dans quelques instants, parce que c'est important que vous appeliez au téléphone. Et on rappelle d'ailleurs le téléphone
bien
dans
sûr,
ces cas-là, Géraldine Hamon.
01 80 20 39 21.
Aimeriez-vous changer de nom de famille ? Près de 150 000 personnes l'ont fait depuis que la loi existe en 2022. Il suffit de remplir un formulaire à propos de déposer en mairie sans avoir à se justifier. C'est ça qui est étonnant. Avant, il fallait invoquer un motif légitime. Et là, vous pouvez changer de nom. Dans deux tiers des cas, la personne a remplacé le nom d'un parent par le nom d'un autre. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il ne fallait pas justifier. Mais je peux prendre n'importe quel nom. Si je veux m'appeler D'Artagnan, par exemple, je peux m'appeler D'Artagnan ?
Ah oui, ça vous irait bien.
Vous récupérez le nom de l'autre parent.
Ah oui.
Vous ne pouvez pas non plus vous créer un nom de famille et vous appeler demain Pascal Tessier, quoi.
Écoutez, j'avais pas prévu en même temps de m'appeler Pascal Tessier. Est-ce que vous êtes. Vous, c'est joli, Géraldine Hamon, vous avez toujours aimé votre nom.
J'aime beaucoup mon nom de famille.
J'imagine. Laurent oui. Tessier, vous avez aimé sans doute votre nom. Et pareil, Tessier,
efficace.
C'est.
Efficace.
Tessier. Voilà. Ça vient de quoi, Tessier, vous savez
C'est de l'ouest de la France.
Mais qu'est-ce que ça voulait dire, Tessier?
Alors là, je n'ai aucune idée.
Crâne. Non, je rigole, pardon.
Pourquoi crâne parce qu'il est chauve.
Oui, pardon, excusez-moi.
Bon, Lafitte, c'est un joli nom, Lafitte.
Oui, c'est joli.
C'est un peu chic, d'ailleurs, c'est un peu bourgeois.
Chic. Oui, c'est vrai.
On a envie de prendre un petit verre.
On demande pourquoi je porte ce nom à l'œil, d'ailleurs.
Très bien, Raël. Et Guédec, ça sent un peu la Bretagne.
Ah, beaucoup, mais ouais, ça sent pas que la Bretagne, d'ailleurs. Mais oui, oui. J'aurais bien aimé mettre un petit 2 devant. Un peu chic comme ça, voilà. De la Guénec ou des Guénec.
De la Guénec. De la Guénec, ça fait. Non, mais
c'est,
la
sympa, oui.
C'est vrai que la particule, parfois, peut aider.
Exactement. Je me permets, si vous avez un nom drôle, appelez-nous. Parce que c'est quand même le sens de la séquence. Ça pourrait être sympa.
Mais... drôle ou même un peu humiliant.
Alors, oui, je vous laisse faire le teasing.
Il y a beaucoup de gens qui ont un nom, et c'est sans doute pour ça qu'ils ont voulu changer de nom.
Oui.
Les noms humiliants, alors on va en trouver, tiens, je vais taper.
Non, mais ce matin, on l'a fait avec Fabrice, on s'est fait rabrouer.
On a essayé d'appeler des personnes et.
Oui, on a appelé des. Je sais pas si je peux le dire, mais.
Vous avez appelé qui ?
On a appelé des Macouilles, des Labites, et
ça n'a pas.
Non, il y a un monsieur Macouille.
Oui, oui, Jacques.
Oui, Jacques, en plus, Jacouille.
Oui.
Non, mais sérieusement.
Sur les pages blanches.
Sur les pages blanches, j'ai annulé, on l'a trouvé.
Il y a monsieur Macouille.
Oui, mais on a discuté avec monsieur Labitte, etc. Et c'était pas très réceptif à la séquence.
Non, mais c'était dur à porter. Et...
Ah oui.
Bon, écoutez. Si vous appelez en disant bonjour. Allô, monsieur Labitte ? Oui, c'est Europe 1.
Non, voilà, c'est comme ça, exactement.
Est-ce qu'on pourrait. Alors, est-ce qu'on peut le passer ? Moi, je propose qu'on appelle en direct.
Non, je vous promets que les gens sont pas réceptifs.
Bah, pourquoi ?
Non, mais non, parce qu'ils le savent, etc.
On va. Et alors, on va. Réceptif avec vous, peut-être qu'ils le seront avec moi.
Ah bah
donnez
merci,
une chance.
C'est sympa, oui.
Donc on va leur demander s'ils veulent changer de nom. Et donc on a trouvé effectivement
et
un
Madame
nom.
Madame Céline Dion aussi.
Bah oui. Mais
Voilà. Europe 1.
Pascal Pro et vous.
11h à 13h sur Europe 1 et toujours avec José en ligne, Pascal.
Nous sommes donc avec José. Pourquoi ? Parce que José appartient à la communauté des Gitans, communauté effectivement avec lesquelles nous aimons échanger. Et vous parliez de code d'honneur, c'est quelque chose effectivement auquel on est sensible. En même temps, vous intervenez parce que le procureur de la République hier, Olivier Janson, effectivement a donné des informations sur la vie privée de Kenji Girac qui peuvent choquer. Et vous pensez que c'est une vengeance? Je pense pas que ce soit ça, José. Je pense pas
moi,
que le procureur se venge.
Pau, comme je vous dis, c'est quelqu'un d'intelligent, d'accord? Donc oui. Qui sait le pouvoir des
mais
mots.
Mais pourquoi il se serait vengé? Quel est son intérêt?
Il y a un inversement des principes et des valeurs. Lui, peut-être que le sens de la parole donnée ou le sens de l'honneur, pour lui, c'est pas important. Vous comprenez? Voilà. Lui, il aime les gens qui balancent ou les donneurs, vous comprenez?
Alors, justement.
Alors que nous, on est dans un monde différent.
Au-delà de l'affaire Kenji Girac, et c'est intéressant de vous avoir puisque vous êtes un représentant de la communauté gitane. Oui. Vous considérez que quand il y a un souci à l'intérieur de la communauté, hein, c'est ça qui est important, à l'intérieur de la communauté,
le monde du silence.
Il y a une forme de jugement qui doit se mettre en place par des juges de paix, je ne sais pas d'ailleurs qui les désigne, mais oui. Que des juges extérieurs ne doivent pas entrer dans ce jugement-là.
C'est ça, il y a une réunion de famille, d'accord ? Il y a le coupable, la victime, le coupable si elle est là, et après, bon, il y a un juge de paix, c'est-à-dire un patriarche, d'accord ? Et c'est lui qui
mais
m'a
ça,
décidé.
Vous l'avez vécu, par exemple.
Ah, bien entendu, on l'a vécu, il n'y a encore pas longtemps. Il y a un an en arrière, pour l'histoire de Perpignan, où il y avait un gitan qui s'est fait fracasser, qui était parti. Enfin, je ne vais pas tout raconter. Où il y avait des maghrébins qui voulaient le massacrer.
Non, et mais ça, c'était voilà. Avec des gens de l'extérieur de la communauté. Mais prenons un cas de figure. Oui. Dans la communauté gitane, vous avez un homme, ça peut arriver, qui se conduit mal avec sa femme, qui, par exemple, la frappe. Bon.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Celui-là qui le fait, il y a des représailles terribles.
Voilà. Mais comment non, ça pardon, se passe mais comment ça se passe voilà, comment ça se passe comment ça se passe
voilà. Comme je vous dis, il y a une réunion, il y a une oui. De paix. Mais chez les gitans, on frappe pas une femme.
Donc par exemple, ça n'est jamais arrivé à votre connaissance?
Si ça arrive, par exemple, il ne mange plus avec nous. Voilà.
Mais
c'est terminé.
Et c'est terminé. Donc,
nous, il ne peut plus parler avec nous.
Donc il sort de la communauté.
Il sort, voilà. C'est-à-dire, voilà. Voilà, si, par exemple, moi, c'est ma fille, il y a quelqu'un qui la frappe, c'est fini, tu ne manges plus, je ne veux plus jamais te voir. Chaque fois que je vais à un endroit, il faut qu'on me prévienne pour pas que je te voie.
D'accord. Donc,
vous comprenez ce que je veux dire?
Ah, mais parfaitement. Et, voilà, hein, et c'est ça qui m'intéresse de savoir. Et lorsque vous avez entendu sur les chaînes d'info parler de cette communauté gitane, est-ce que vous avez trouvé que ça correspondait à la réalité?
Dans quel sens, M. Pro?
Est-ce que ce qu'on disait, justement, sur ce fonctionnement, ou sur même la psychologie, ou sur ce qui pouvait se dérouler, est-ce que ça correspondait au monde dans lequel vous vivez?
Oui, M. Pro, comme je vous dis, nous on a un code d'honneur, le sens de la parole donnée, voilà, c'est le monde du silence, on ne parle pas, vous comprenez? Voilà.
Tous vos amis, par exemple, ne sont que gitans. Vous n'imaginez pas, par exemple, qu'une... Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, José, mais vous n'imaginez pas, par exemple, que vos enfants se marient à l'extérieur de la communauté gitane?
Ah, bien entendu, je peux l'envisager. Il n'y a absolument aucun problème. Aucun problème.
Mais donc il y a des gens de temps en temps qui entrent dans cette communauté.
Voilà. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'ils suivent nos principes, nos règles, nos coutumes, c'est-à-dire dans le sens et nos valeurs, nos valeurs morales. Vous comprenez? On ne pourra pas faire entrer quelqu'un dans la famille, par exemple, comment je pourrais vous dire, qui a commis des actes graves, par exemple, je ne sais pas moi, proxénétisme ou pédophilie, ou viol,
j'entends
ou quoi
bien.
Que ce soit. Ça, c'est
bon,
impossible.
Alors, moi, il se trouve que je suis fiancé, voilà. Donc je n'ai pas a priori, je ne vais pas changer de fiancé, quoi, j'espère pas en tout cas. Mais si, par exemple, je rencontrais une jeune femme de la communauté gitane, vous m'accepteriez dans la communauté?
Vous avez nos valeurs, vous avez l'authenticité, vous parlez vrai, vous comprenez, nous on a une profonde admiration.
Il n'y a plus qu'à acheter la caravane, yes.
Et jouer de la guitare.
Non mais c'est vrai.
Ah non, mais parce, bah écoutez, alors j'en suis fier.
Il correspond aux principes, à nos valeurs.
Eh ben, je suis fier d'être
voilà,
accepté par vous.
Nous, on a une profonde admiration pour vous.
Eh ben, c'est gentil.
Vous, voilà, je vais vous dire vulgairement, vous vous mettez vos couilles sur la table. Oui. Et vous n'avez pas besoin de faire ça.
Voilà. C'est métaphorique, je tiens à le dire, pour les téléspectateurs ou les auditeurs.
Ah oui, d'accord.
C'est une métaphore. Bon, merci José.
Oui, c'est métaphore.
Et bon week-end.
Mais je voulais vous le dire.
Oui.
Je vous embrasse, monsieur Faux.
Mais c'est moi qui vous embrasse.
Ça, vos émissions sont remarquables.
Eh bien, on vous aime bien. J'aimerais vraiment. J'aimerais vraiment voir un jour José parce que.
Mais pareil.
Parce que j'ai. Comment dire, dans ma tête, j'ai une image de lui.
Forcément.
Je l'imagine plutôt grand, plutôt baraqué, tout ça. Alors, je ne sais pas, évidemment. Si,
non, je suis 1m90, je prends.
Mais José, vous voulez pas venir à Paris nous voir?
Le jour où vous venez, vous venez nous voir à Paris dans le studio, José. Ça me ferait plaisir.
Ah oui, mais il n'y a pas de problème. Je monte à Paris.
On vous embrasse, il est 11h24.
Je vous embrasse.
11h24.
Oui. Continuez comme ça. Hein.
J'ai bien compris l'affaire. Merci, José. Alain est avec nous. Alain qui est boucher. C'est le boucher de Porto, Alain?
Oui.
Ah. Oui. Bah, oui, bonjour, Pascal.
J'ai entendu une petite voix. Bonjour Alain.
Oui, il y a vous au magasin.
Ah oui, bah vous êtes le célèbre boucher qui se lève à 2h du matin et qui travaille jusqu'à 23h le soir.
Le célèbre, je suis le boucher.
Le boucher de Morteau.
Voilà.
Bon, et vous n'avez toujours pas trouvé personne pour travailler avec vous?
Non, Pascal, non. Non, personne.
Mais vous cherchez toujours ou pas?
Je ne cherche plus.
Ah bon, bah comme ça, vous ne pouvez pas trouver.
Voilà,
ça, c'est bien. Bon, pourquoi vous vouliez nous appeler? Parce que vous ne voulez pas nous parler de boucherie, mais vous voulez nous parler également de ce procureur qui a pris la parole, et peut-être parce que vous-même avez été, pourquoi pas, alcoolique, c'est bien cela?
Oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est juste, je voulais juste faire remarquer que personne n'est là pour juger et puis personne n'a le droit de juger le seul fait que Kenji Chirac est sombre dans l'alcool et dans la cocaïne. Moi j'ai sombré dans l'alcool, mais ça démontre juste une chose, c'est que l'être humain, toute fortune il peut posséder, tout ce qu'il peut posséder, même l'homme le plus riche du monde et tout ça, on reste un être humain faible, très faible devant la difficulté. Et n'importe qui peut plonger.
Ben ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et elle est excellente, votre question. Est-ce que n'importe qui peut plonger ou pas?
N'importe qui peut plonger. Moi, j'ai la réponse en moi, puisque moi, je croyais être fort et tout ça, et puis ça ne m'a pas empêché, à une certaine période de ma vie, de plonger.
Je suis d'accord avec vous, mais alors, quand vous dites que vous étiez alcoolique, je voudrais savoir combien d'alcool, de vin, rouge ou blanc, vous pouviez boire par jour?
Je buvais tout seul, j'allais pas dans les bars, je buvais tout seul parce que ça soignait un état dépressif. Mmh. Et puis je buvais entre 12 et 15 bières de 50 centilitres à 10 degrés par jour.
Donc ça fait 6 litres de bière, c'est ça,
ouais.
12 ou 15
ouais, mais de la
uniquement
force,
à la bière.
Ouais,
et vous commenciez à quelle heure le matin?
Au saut du lit.
Ah oui.
Au saut du lit, mais là,
vous étiez,
pas me lever.
Vous étiez marié déjà?
Non.
Vous étiez seul?
Alors, j'étais seul, personne ne voulait de moi, ni charmante demoiselle, ni patron.
Ah oui, ça je comprends. Vous aviez quel âge?
C'était au début des années 2000. Mais ça a commencé avant, mais la grosse alcoolisation, c'était surtout aux années 2000.
Et vous aviez quel âge?
J'ai vraiment forcé la dose. Eh bien, j'avais 30 ans.
Et comment vous expliquez ça?
Ça c'est parce que j'ai subi des choses que je ne souhaite à personne de la part de gens de ma famille.
Ah oui.
Et puis voilà, puis après on essaye d'oublier les choses par autre chose.
Et aujourd'hui par exemple, vous ne buvez plus une goutte d'alcool?
Dernier verre le 23 juin 2005 à 10h17 dans le hall de la gare Saint-Lazare, quand je partais me faire soigner dans une clinique à Broville à côté d'Évreux.
Et aujourd'hui, c'est ça qui est terrible chez les alcooliques, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas avoir le plaisir qu'on a nous,
ouais,
qui ne sommes pas alcooliques,
pas
ou à simplement boire un petit verre. Vous replongez tout de suite, à votre avis, si vous buvez une goutte d'alcool.
Il y a un risque, ma vie est tellement belle que je ne veux pas prendre le moindre risque.
Ben vous avez raison. Bon, Alain, on va marquer une pause, il est 11h27. On a ce thème qui nous intéresse, qui est un peu léger, quoique pas si léger que ça, parce que ça peut être parfois très difficile pour ceux qui portent un nom qu'ils n'aiment pas, mais on va essayer d'appeler effectivement les uns et les autres qui souhaitent changer de nom de famille.
Par exemple, comme ça.
Ben, je ne sais pas.
Non, quelle suggestion vous...
Ben non, mais qui vous avez trouvé parce qu'il y a plein de noms.
Vous en avez tout à l'heure.
Effectivement, ben, bien sûr, je vais vous dire. Dans les
parce
noms...
que vous m'avez donné une directive hors antenne, mais je ne sais pas si je peux la dire à l'antenne.
Ah ben si, dites-le. Ben,
vous m'avez suggéré d'appeler monsieur ou madame Fion. Ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci.
Oui.
Sur les pages blanches. Mmh. Et c'est ce que vous voulez, c'est ça? C'est ce nom-là?
Alors, il y a effectivement, parmi les noms qui. On trouve. Il y a madame Gros-Molard, il y a monsieur Sans-Poil, il y a monsieur Sacavin, monsieur Bâtard, encore ça peut aller, Bâtard, monsieur Porno, monsieur Le Prout.
Oui.
Ça doit être sympa de s'appeler Le Prout.
Ah oui, oui.
Évidemment.
Pratique. Comme vous dites. Bon, qu'est-ce que vous voulez parmi
monsieur
cette
Le Fion
farandole?
Bah, je ne sais pas, monsieur. C'est vrai que monsieur
Allez,
Le Fion.
Si va vous... pour Fion, c'est pas.
Le Fion.
Ah, monsieur Le Fion, pas de souci, je l'appelle.
C'est monsieur Le
Il a une particule quand même, bien sûr.
C'est pas une particule, Le Fion.
Pardon, non, oui, c'est non, le, c'est pas une particule.
Bah non, c'est un article, ça s'appelle.
Ah, un article, bon, très bien, bon, merci
mais,
à vous.
Mais c'est dans le même mot, monsieur Le Fion.
Oui, oui, bah je l'appelle.
Donc,
oui, pas de souci.
Et puis dès qu'on l'a au téléphone, vous me le passez.
Ça va être une belle séquence encore.
Je pense.
40 ans pour en arriver là. 40 ans de journalisme.
Et des études brillantes, oui. Comme vous le savez.
Europe 1, Pascal Pro.
Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1.
La prise de parole de Marcy dans Quotidien hier, et elle fait parler quand je m'exprime sur Adama, sur Naël. Il s'agit du groupe, dit-il, c'est pour nous tous, ça nous concerne tous, c'est notre société. Qu'est-ce qu'on fait de la notion de justice? Ça nous regarde tous, dit-il encore. Des gens sont en train de cracher leur haine, ils essaient de mettre au goût du jour une France du passé, avec des idées bien arrêtées. Elle est où, la maman? Donc il a fait référence manifestement à Marion Maréchal. Je vous propose de l'écouter hier soir.
Quand je m'exprime sur Adama, sur Naël, il s'agit du groupe, c'est pour nous tous. Et là, on peut échanger là-dessus. Parce que ça nous concerne tous, j'ai le sentiment que voilà, c'est notre société. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de la notion de justice? Ça nous regarde tous. Donc là, oui, je suis prêt à en parler publiquement parce que c'est public, en fait. On a ces gens qui sont en train de cracher leur haine et qui essaient de mettre au goût du jour une France du passé avec des idées bien arrêtées, avec des « elle est où la maman ?» etc. Ces genres d'idées-là, il faut juste se rappeler que les gens qui ont porté ces idées-là dans le passé ont conduit la France dans des endroits très, très sombres. Il faut se réveiller sur une chose, les amis. On a un groupe à créer, et pas plein de petits groupes. Les copains, ce n'est pas seulement les jeunes musulmans qui quittent la France. Ce sont les jeunes Français qui ne voient pas d'avenir en France.
Alors, Grégory est horticulteur, il voulait peut-être réagir sur ces propos de Omar Sy. Bonjour Grégory.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous.
Merci à vous. Eh bien écoutez, je trouve ça inadmissible ce que dit Omar Sy, parce que où est la haine? Ce n'est pas d'être haineux de vouloir retrouver une France du passé. Alors, bon, je dis pas, on peut pas retrouver tout à fait la France du passé d'avant, mais enfin, d'essayer de conserver quelque chose de la France. Est-ce que c'est haineux d'être contre les délinquants? Non. Est-ce que c'est haineux de vouloir voter Rassemblement National ou Reconquête? Non, ce n'est pas haineux. Il y a aussi une question de... Les gens, maintenant, ils vont voir du racisme partout, même quand il n'y en a pas. Et ça, j'en ai marre. Des gens qui vont voir du racisme partout, là où il n'y en a pas. Ce n'est pas du racisme que d'essayer de retrouver une France correcte, une France avec de la sécurité. Vous l'avez dit vous-même, Pascal Pro, il y a 120 coups de couteau en France par jour. 120 coups de couteau par jour, c'est très grave. Donc non, on en a marre. On en a marre des délinquants. On en a marre de cette France qui est complètement délaissée. Il y a certains moments, je ne reconnais plus la France. Et ce n'est pas de la haine de ma part, ce n'est pas du racisme de ma part, ce n'est pas aussi de la haine de dire que le policier, comme il a fait allusion sur le jeune Naël, ce n'est pas haineux de dire que ce policier est présumé innocent. Non, l'enquête n'est pas terminée. Enfin, je crois qu'elle n'est pas terminée. Hein. Donc ce n'est pas... C'est juste respecter la présomption d'innocence. Est-ce que c'est d'être haineux? Non. Donc je ne partage pas du tout l'avis d'Omar Sy, surtout que lui, la France, bah, il la connaît de moins en moins, puisqu'il est à Los Angeles. Et bon, c'est son choix, hein, il a le droit, ceci dit. Hein. Mais bon, il vit à Los Angeles. Alors qu'est-ce qu'il parle de la France, lui? Ça fait des années qu'il est à Los Angeles. Moi, je préfère par exemple un discours comme Jean Jean Dujardin qui lui Jean Dujardin qui a autant de succès que Omar Sy, hein, sinon plus. Lui, il a choisi de rester en France, il a choisi de vivre en France. Donc je préfère ce genre de personne qui lui a plus un regard sur la France que Omar Sy. Donc voilà, non, Omar Sy, il dit n'importe quoi.
Bon, bah, ce qui est étonnant, là où il y a quelque chose de contradictoire, c'est que Omar Sy, il est salué par ce pays justement qui en a fait une icône. Ce qui montre précisément combien ce pays est capable d'accueillir et de choisir les uns et les autres, non pas en fonction ni de la couleur de peau ni des origines sociales, mais en fonction simplement du talent. Et Omar Sy, c'est quelqu'un qui, dans les baromètres, est toujours premier ou deuxième français, je crois, préféré. Je crois que c'était le baromètre du Journal du Dimanche. Donc ça montre précisément que ce pays n'est pas raciste par définition, puisqu'il choisit Omar Sy comme une tête de pont. Donc c'est ça qui peut paraître paradoxal. Mais il y a un côté un peu donneur de leçons dans ce qu'il a dit, qu'a, disons-le, beaucoup...